Vous écoutez, on lit pour vous.
Le prix Donald de la paix, un texte de Boukhar Diouf, paru le 11 octobre 2025 dans la presse. Pendant un certain temps, la magasphère s'est mobilisée pour réclamer un prix Nobel pour son gourou qui est en train de massacrer à la tronçonneuse la démocratie et le tissu social américain. Tous ces lèche-bottes savent que nourrir l'ego du gourou est la seule façon d'être dans ses bonnes grâces. On veut mettre son visage sur un billet de banque ou sur des pièces de monnaie, sculpter sa face dans une montagne et le voir mettre la main sur le Nobel de la paix. Avant Trump, je n'ai jamais entendu quelqu'un insinuer ostensiblement qu'il mérite un prix Nobel. La normalité veut que la personne pressentie pour la récompense garde le silence et laisse les autres pousser son dossier. Mais avec Donald, aucune règle n'est sacrée. Remarquez, ce n'est pas la première fois que Donald rêve de recevoir le prix Nobel de la paix. Souvenons-nous, pendant son premier mandat, après avoir décroché l'organisation de la Coupe du monde de soccer de 2026 aux États-Unis et annoncé faussement à la planète que les négociations pour la dénucléarisation de la Corée du Nord allaient très bien, ses partisans disaient déjà qu'ils pouvaient rêver de mettre la main sur le Nobel de la paix. Pourquoi ce rêve est-il devenu une obsession? Je ne sais pas plus que vous. Donald fait peut-être partie de ces vieillards en quête de sens, des personnes que la conscience de leur finitude amène à penser que le pouvoir, l'argent et les grandes reconnaissances sont des gages d'immortalité. Ils calment leur cortex singulaire avec ces illusions de grandeur, ce qui les amène à oublier qu'un ver de terre est plus utile qu'eux dans la création. Un ver de terre rend des services à la biosphère en aérant le sol et en participant au cycle de l'azote qui fait pousser les plantes. Or, Donald est un nihiliste de la crise environnementale et un fossoyeur de la biosphère. Sa candidature pour le prix Nobel de la paix a encore été rejetée. Gageons qu'il expliquera tout ça par un complot international qui ne veut pas reconnaître qu'il est la projection directe de Dieu sur Terre. Ses partisans pourront toujours argumenter que le prix récompense davantage les gens pour ce qu'ils font et non ce qu'ils sont. Ce ne sont pas les exemples qui manquent pour leur donner raison, car l'histoire des prix Nobel est jalonnée de lauréats qui ne brillent pas par la noblesse de leurs idées. Beaucoup de scientifiques aux idées condamnables ont été nobilisés. Des exemples? Philippe Lenard, qui était un idéologue de la physique arienne, a reçu le prix Nobel de physique de 1905. Alexis Carrel, un eugéniste de la première heure, a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine de 1912. Charles Richer, eugéniste et grand théoricien de l'inégalité des races, a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine de 1913. Le physicien Johannes Stark, collaborateur assumé du régime nazi, a reçu le prix Nobel de sa discipline en 1919. Malgré son adhésion aux théories sur l'hygiène raciale, le célèbre zoologue autrichien Konrad Lorenz a reçu le prix Nobel de médecine de 1973. James Watson, un des découvreurs de la structure en double hélice de l'ADN, a reçu le prix Nobel de médecine et biologie moléculaire malgré des déclarations sur la hiérarchie des races. Il y a aussi le cas plus spectaculaire du très brillant scientifique allemand Fritz Haber. Ce dernier est considéré comme le père des armes chimiques. Haber a reçu son prix Nobel en 1919 pour sa découverte du procédé Haber-Bosch, un travail sur la synthèse directe de l'ammoniac qui ouvrait la porte à la production d'engrais pour le développement de l'agriculture. Le problème dans cette reconnaissance qui arrivait juste après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est qu'elle n'a pas tenu compte de la contribution dramatique de Haber au massacre. On lui doit sur commande l'amélioration des méthodes chimiques de production d'acide nitrique qui étaient utilisées par l'armée allemande pour fabriquer des explosifs. C'est aussi à Haber qu'on doit la synthèse du sulfure d'éthyle dichloré, appelé aussi hypérite, du nom de la ville d'Ypres, en Belgique, où il a été pulvérisé pour la première fois. Ce gaz irritant a été utilisé pour sortir les soldats alliés des tranchées comme on sort des rats de leurs trous pour mieux les massacrer. La contribution scientifique de Fritz Haber lui vaudra d'être nommé directeur du service de guerre chimique de l'Allemagne. Encore aujourd'hui, la dose minimale de gaz nécessaire pour tuer un humain est calculée avec une valeur appelée la constante de Haber. Si cet idéologue, dont le militantisme génocidaire a amené sa première femme à se suicider, a réussi à mettre la main sur le Nobel prix, le président Trump, si ignoble soit-il, a le droit d'espérer ce prix qui porte le nom, il faut le rappeler, de l'inventeur de la dynamite. Les travaux de Fritz Haber ne sont pas très loin de ceux d'Alfred Nobel. Ce chimiste et ingénieur suédois devait une partie de sa fortune à ses découvertes sur la stabilisation de la nitroglycérine. Un procédé qui mènera à la fabrication de dynamite, une découverte qui permettra de percer les montagnes pour aménager des tunnels et de faire avancer les grands travaux routiers et de chemin de fer. La découverte d'Alfred Nobel sera aussi utilisée dans l'extraction minière à grande échelle. Elle sera au cœur du développement industriel du 19e siècle. Évidemment, la dynamite deviendra aussi une arme très meurtrière et ça, le découvreur le savait. Un certain sentiment de culpabilité semble d'ailleurs avoir été le déclencheur moral de son testament de 1895. Il a décidé de mettre sa fortune au service de ces prix qui honorent les bienfaiteurs de l'humanité. C'est là toute la différence entre Alfred Nobel et Fritz Haber. Le chimiste allemand, lui, n'a manifesté aucun regret. Au contraire, à ceux qui lui reprochaient d'avoir mis sa science au service du nazisme, il aurait déclaré « En temps de paix, un scientifique appartient au monde ». Mais en temps de guerre, il appartient à son pays. Si les prix Nobel de science attribués à beaucoup de chercheurs ont été discutables, ceux de la paix sont également jalonnés d'un historique de polémiques et de controverses. Beaucoup de personnes qui ont reçu ce prix Nobel ont ultérieurement déçu l'humanité. On peut citer ici Henry Kissinger, qui a été récompensé en 1973 comme faiseur de paix au Vietnam, alors qu'il était encore un acteur de l'ombre des guerres secrètes que le gouvernement Nixon a menées au Cambodge et au Laos entre 1969 et 1973. Souvenons-nous aussi du cas d'Aung San Suu Kyi. Cette icône de la démocratie birmane, récompensée en 1991 et qui est restée terrée et bien silencieuse devant le massacre des musulmans Rohingyas en 2016. Il y a aussi le cas très ironique du Nobel de la paix remis à Barack Obama en 2009, alors qu'il n'avait encore rien fait de significatif comme président. Par la suite, l'intervention américaine en Libye a complètement terni cette récompense, surtout maintenant que la justice française a condamné Nicolas Sarkozy. En septembre 2016, la Commission des affaires étrangères du Parlement britannique, qui s'est penchée tardivement sur la question, est arrivée à la conclusion que la décision de bombarder la Libye en 2011 était fondée sur des postulats erronés. Les parlementaires britanniques ont également souligné que cette guerre était indissociable des intérêts politiques personnels de Sarkozy. Les premières bombes de la France ont commencé à tomber quand le fils du dictateur libyen Saïf al-Islam a sorti des infos que Sarkozy ne voulait certainement pas entendre. Il a demandé à Nicolas de rembourser l'argent que son père lui avait donné pour sa campagne de 2007, que certains évaluent à 50 millions d'euros. Avec sa condamnation récente dans le dossier libyen, on sait maintenant que Sarkozy cherchait aussi une façon d'empêcher que ses propres squelettes ne sortent des dunes du désert libyen et ne viennent le hanter à l'Élysée. Depuis cette agression, la Libye s'est transformée en un énorme bourbier, pour ne pas dire un volcan actif dont les projections brûlent encore le Sahel, ma région africaine d'origine, et font beaucoup de morts. Pour cause, pendant les dernières années de son règne, le colonel Kadhafi disposait d'un arsenal évalué à 50 milliards de dollars par les experts. En plus d'une partie de cet armement qui s'est évanoui dans la nature, la Libye instable est devenue aussi un gigantesque marché d'armes pour tous les groupes djihadistes qui traumatisent le Sahel et ont fait des milliers de morts. C'est aussi ça, le prix Nobel de la paix de Barack Obama. La morale de mon histoire est la suivante. Le prix Nobel ne fait pas la noblesse des idées et des faits d'armes. Je suis cependant soulagé que Donald ne l'ait pas reçu. Ça aurait donné trop de gaz à sa machine destructrice. C'était le prix Donald de la paix. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 11 octobre 2025 dans la presse.
Un outil web pour aider à choisir son milieu de vie. Un texte de la rédaction paru le 22 août 2025 dans Virage. E-M-I-L-I-A, Emilia. Un outil web conçu pour accompagner les personnes aînées dans le choix de leur milieu de vie et auquel la FADOC a contribué, est désormais accessible au grand public. Emilia signifie « explorer son milieu de vie aîné ». Cet outil regroupe des renseignements utiles, des grilles d'aide à la décision, des guides étape par étape ainsi que des témoignages audio. Plus de 60 personnes aînées et leurs proches ont pris part à toutes les étapes ayant mené à l'élaboration de l'outil, tandis que 160 autres l'ont testé en conditions réelles. Plusieurs membres de la FADOC y ont d'ailleurs apporté leur contribution. En bref, Emilia se décline en trois temps, chacun correspondant à une étape clé de la trajectoire domiciliaire. Guillemets au début. Guillemets, partir ou rester, et guillemets, partir où? Des contenus riches et détaillés abordent 17 thèmes allant des crédits d'impôt favorisant le maintien à domicile aux conseils pour inventorier ses biens en passant par des pistes pour entamer le dialogue avec ses proches. Les informations pratiques incitent les personnes aînées à faire le point sur leur situation actuelle, à se projeter dans l'avenir et à intégrer leurs proches dans la réflexion afin d'éviter des décisions prises dans la précipitation. Rappelons que la FADOC, région Estrie, ainsi que la FADOC provinciale, ont soutenu ce projet avec constance depuis son lancement en 2019. Pour découvrir l'outil, consultez le site web outilemilia.ca. J'appelle outilemilia.ca. Je répète, outilemilia.ca. C'était un outil web pour aider à choisir son milieu de vie. Un texte de la rédaction paru le 22 août 2025 dans Virage.
De bonnes raisons de ne pas baisser les bras. Un texte d'Alexandre Sirois paru le 8 septembre 2025 dans la presse. Catherine Fournier, a publié dernièrement un livre intitulé « Apprivoiser la politique », destiné principalement aux jeunes adultes. Nous avons donc provoqué une rencontre entre la mairesse de Longueuil et des jeunes adultes. Notre chroniqueur a ainsi tenté d'évaluer l'ampleur du fossé qui sépare les jeunes de la politique et de voir s'il est possible de le combler. On vous offre parfois des exemples si efficaces pour prouver une théorie qu'elle en devient aussitôt très difficile à démonter. C'est ce que je me dis quand j'entends Catherine Fournier expliquer, pour prouver que les jeunes ont tout avantage à s'intéresser à la politique, qu'elle a été la première députée à parler de la crise du logement à l'Assemblée nationale. Bien avant que les partis s'intéressent à cette question-là, précise-t-elle, lors d'une discussion avec quatre élèves du cégep du Vieux-Montréal qui l'écoutent avec un vif intérêt. Pourquoi? Parce que je le vivais comme jeune. Je voyais mes frères, mes amis, avoir de la difficulté à trouver un logement, ne pas pouvoir accéder à la propriété, ajoute l'élu. Je constatais cette réalité-là autour de moi. Catherine Fournier n'avait que 24 ans quand elle a été élue à l'Assemblée nationale en 2016. Elle est alors devenue la plus jeune femme de l'histoire à y siéger. Et elle a abordé ce sujet très tôt, dit-elle. C'est un exemple flagrant du fait que c'est important d'avoir des gens de toutes les générations, puis des gens diversifiés au sein d'une assemblée démocratique délibérative comme l'Assemblée nationale, parce que ça permet de ne pas avoir d'angle mort sur ce qui se passe au sein de la société et ce qui affecte les gens au quotidien. C'est pour ça que je suis convaincue que ça prend aussi plus de jeunes en politique. Le malheur, c'est qu'il y en a bien peu. Non seulement les jeunes s'impliquent moins en politique que les plus vieux, mais ils s'y intéressent moins. Les sondages le démontrent. J'ai cherché à savoir pourquoi, avec Catherine Fournier et une poignée de jeunes du profil Action pour le changement, une spécialisation offerte aux élèves en sciences humaines par le Cégep du Vieux-Montréal. Maïka Guérin, élève du Cégep du Vieux-Montréal, témoigne. Oui, il y a des moments où on est plus comme « Oh, on va changer les choses », mais aussi parfois on vit des fatigues. Le résultat des élections américaines, dit-elle, n'a rien fait pour lui remonter le moral quant à la politique. Je pense que si j'avais été initiée à la politique plus jeune, ça aurait vraiment aidé. On a quelques cours au cégep et on en a parlé un peu au secondaire. Mais commencer plus jeune, je pense, ferait qu'on serait ensuite plus motivé, ajoute-t-elle. Catherine Fournier renchérit aussitôt. Ça la préoccupe, et ça paraît. Je ne sais pas si on le fait maintenant dans le cours de culture et citoyenneté québécoise, mais je me disais, hey, on n'apprend même pas comment marche le gouvernement. C'est quoi l'Assemblée nationale? C'est quoi la Chambre des communes? Comment on vote? C'est fou, je trouve, lance la politicienne. D'autres bobos ont été grattés lors de la discussion. On ne se sent pas tant représenté, écouté. C'est des enjeux, ceux qu'abordent les politiciens, qui ne rejoignent pas mes valeurs tant que ça. Donc, ça me donne moins envie de m'impliquer ou de m'intéresser à la politique. J'ai l'impression qu'aucun parti politique ne me rejoint complètement, déplore Amiel Sainte-Marie-Beauchamp, qui dit toutefois essayer de s'intéresser à la politique le plus possible. Ne sous-estimons pas, par ailleurs, l'impact des changements vécus par les jeunes adultes, signale Alexia Lehouillé-Berthiaume. On part en appart, on va au cégep, à l'université. On est un peu pris dans le train de la vie. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres préoccupations que la politique, estime-t-elle. Dans la foulée, elle souligne que si le droit de vote était accordé dès 16 ans, alors que les jeunes habitent souvent chez leurs parents et sont plus encadrés, ils seraient probablement plus nombreux à l'exercer. Catherine Fournier est entièrement d'accord. Il y a des études qui le démontrent, dit-elle. Elle en évoque d'autres qui révèlent que parmi les jeunes qui ne vont pas voter la première fois qu'ils en ont l'occasion, 50% n'iront ensuite jamais voter. Je précise ici que malgré leurs réserves, toutes les élèves qui ont participé à la discussion se disaient conscientes à la fois de l'importance de la politique et de l'engagement. Un exemple parmi d'autres. Au milieu de l'entrevue, je cite les chiffres qu'on retrouve dans le livre « Apprivoiser la politique » au sujet de la représentativité. Le Parlement à Ottawa est composé à 70% d'hommes et 86% des parlementaires ont plus de 40 ans, selon des données de 2024. À l'Assemblée nationale, en 2022, la moyenne d'âge des parlementaires était de 51 ans. Ariel Goudreau réagit rapidement et affirme que ces chiffres ne la découragent pas. Elle est plutôt du genre à vouloir les contredire. Ira-t-elle un jour jusqu'à se lancer en politique? « Je ne vais pas vous mentir, j'y ai pensé, » répond-elle. « Ce n'est pas quelque chose à quoi je suis entièrement fermée. » Alexia Lehouillé-Berthiaume dit, elle aussi, que ça l'intéresse beaucoup. Parce que c'est tellement un moyen de changer les choses concrètement par rapport, par exemple, à l'environnement, qui est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, dit-elle. L'élève dit toutefois se méfier du train de vie et de la charge de travail des élus. « Ben, c'est passionnant, » lui répond Catherine Fournier. « C'est aussi, selon la mairesse, une bonne façon de lutter contre l'anxiété liée à des enjeux cruciaux comme l'environnement. Je demeure convaincue que la politique est un des meilleurs moyens de changer les choses, parce que, concrètement, c'est ce qui oriente l'avenir de nos sociétés, dit-elle. Si on n'occupe pas la place politique, il y a d'autres personnes qui vont l'occuper. Et ça prend du bon monde, des gens qui croient à une transformation positive de nos sociétés, ajoute l'élu. Mon message, c'est « Je refuse de baisser les bras ». À la fin de la rencontre, les élèves ont prononcé, en vrac, les mots « inspirant », « encourageant » et « espoir ». L'une d'elles a même dit avoir envie de s'impliquer davantage et, possiblement, de faire du bénévolat aux élections qui s'en viennent. L'échantillon est petit, mais ça me porte tout de même à croire que l'initiative de Catherine Fournier est efficace et que des jeunes, en la lisant ou en l'entendant, vont à leur tour refuser de baisser les bras. C'était « De bonnes raisons de ne pas baisser les bras », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 8 septembre 2025 dans la presse.
Quand la musique fait travailler les neurones. Un texte de Nicolas Faubert-Dufort, paru le 22 août 2025 dans Virage. Le cerveau change avec l'âge, mais il reste possible de le garder en forme et d'apprendre de nouvelles choses. Il suffit de lui donner de bons défis. Une avenue intéressante? L'instrument de musique. Les neurones, ces cellules responsables du fonctionnement du cerveau, baissent en nombre en vieillissant et certaines connexions deviennent moins efficaces. Ces changements peuvent affecter la mémoire, la concentration, la vitesse de traitement de l'information et même la capacité de résolution des problèmes. En revanche, notre cerveau possède une remarquable capacité d'adaptation. la neuroplasticité. Autrement dit, les neurones sont capables de créer de nouvelles connexions et de renforcer celles déjà présentes en réponse aux stimulations que nous leur apportons et aux activités que nous exerçons. Un instrument pour s'entraider. La neuroplasticité ne disparaît pas avec le temps. Ce qui compte, c'est d'entraîner ces neurones de façon variée, stimulante et régulière. À ce titre, la musique pourrait être un excellent outil. En jouant d'un instrument, on sollicite plusieurs zones cérébrales liées à la perception sensorielle, aux émotions et à la coordination motrice. Récemment, une équipe de recherche a suivi 132 personnes retraitées, âgées de 62 à 78 ans. Après quelques semaines de cours de piano, combinés à 30 minutes de pratique quotidienne, les scientifiques ont observé une amélioration significative de la mémoire de travail auditive. L'imagerie cérébrale a aussi révélé une augmentation de la matière grise dans le cervelet. Sachant que celui-ci joue un rôle clé dans le langage, l'attention et l'imagerie mentale, ces résultats sont intéressants. Évidemment, d'autres recherches seront nécessaires pour mieux comprendre tous les effets de l'apprentissage musical sur le cerveau. Mais il n'en demeure pas moins que stimuler ces neurones en vieillissant est non seulement possible, mais aussi bénéfique. Une mélodie pour l'esprit. Aujourd'hui, une foule de ressources sont à votre disposition. Des applications conviviales comme YouGician, YOUSICIAN, à yougician.com/fr, Perfect Piano, disponible sur App Store et Google Play, ou Drumeo, DRUMEO, à drumeo.com, en anglais seulement, en passant par les chaînes YouTube d'artistes d'ici et d'ailleurs, rendent l'apprentissage d'un instrument de musique plus accessible que jamais à votre propre rythme. Et si vous préférez une approche plus traditionnelle, plusieurs écoles de musique et programmes affiliés aux municipalités offrent des cours adaptés à tous les niveaux, y compris pour les débutantes et débutants tardifs. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Comme le dit si bien un proverbe japonais, citation, « On commence à vieillir quand on cesse d'apprendre. » Fin de citation. C'était « Quand la musique fait travailler les neurones », un texte de Nicolas Faubert-Dufort, paru le 22 août 2025 dans Virage.